Bonjour Philippe Cuisset, merci d'être avec nous dans les studios de Radio Primitive pour nous présenter ton nouveau livre. On t'avait déjà reçu il y a 2 ans maintenant pour parler d'un ouvrage qui s'appelait Miranda et qui était sorti chez Kyklos Éditions. Cette fois-ci, tu reviens avec toujours un livre sorti chez Kyklos Éditions et qui se nomme Des torrents de sang et d'argent. Donc merci à toi. Tout d'abord,
avec plaisir déjà d'être à nouveau ici pour vous parler de ce livre.
Tu m'avais fait remarquer hors micro qu'il y a 2 ans, j'avais parlé de noirceur absolue. 2 ans plus tard, ça ne s'est pas amélioré puisque ce n'est donc pas de la littérature feel good dont il sera question aujourd'hui.
Non, pas vraiment. Ouais.
Mais d'un roman qu'on peut qualifier de roman historique. Est-ce que c'est une appellation qui te convient ?
On pourrait l'appeler parce que je ne vois pas comment l'étiqueter sinon, sauf que les auteurs de romans historiques sont souvent des gens qui développent tout un cadre historique extrêmement précis et touffu, qui donne lieu à des ouvrages de plusieurs centaines de pages souvent. Non, c'est pas un roman, il y a une base historique, il y a un arrière-plan historique, qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui du premier génocide du XXe siècle. Mais je ne me suis pas intéressé, je ne voulais pas raconter l'histoire, je voulais raconter une histoire, ou plusieurs petites histoires, plusieurs petites tranches de vie qui m'intéressaient dans cet événement.
Voilà. Alors, avant de présenter les différents personnages dont il est question dans ces tranches de vie, on va peut-être poser le contexte très particulier dans lequel se déroulent en fait ces histoires. Ouais. Donc, nous partons en Namibie. Et...
Ouais. Alors, donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Donc, on est en 1904. La Namibie ne s'appelle pas encore la Namibie. Elle s'appelle le Sud-Ouest africain allemand. Donc, ça a été d'abord une colonie portugaise, mais que les Portugais n'ont pas investi vraiment parce qu'il y a une bande de désert qui est très hostile, qu'on appelle le désert du Namib. Et puis, finalement, l'Allemagne, qui est un petit peu en manque de colonies, donc là, la conférence de 1894, vont prendre ce territoire africain pour puiser les richesses et donc la colonisation. S'étend, les colons prennent les terres les plus fertiles, repoussent les héros et les namas dans des terrains de plus en plus réduits, de plus en plus hostiles, et puis imposent un mode de vie qu'ils ne peuvent plus supporter jusqu'à ce qu'il y ait une révolte en 1904. Donc les héros se révoltent, tuent quelques soldats, une centaine de personnes, et puis quelques colons armés, bien sûr. Et puis le Deuxième Reich envoie Lothar von Trotha, qui est un général réputé pour sa violence, et qui va donc signer le premier ordre génocidaire de l'histoire de l'humanité, de l'histoire militaire. Et donc ils vont quasiment exterminer les héros, puisqu'ils tuent 80% de la population. Et puis ensuite, les Namas se révoltent à leur tour, un an plus tard. Et ils vont en exterminer la moitié. Les autres vont finir, les survivants vont finir dans des premiers camps de concentration qui sont aussi des camps de la mort. On va tuer un petit peu comme le front, on va tuer beaucoup comme le front exactement les nazis à partir de 1933, c'est-à-dire par l'épuisement, par le travail ou simplement par l'exécution. Voilà.
Dans le livre, on trouve dans ces tranches de vie des choses qui sont profondément révoltantes. Alors bien sûr, il y a le massacre au départ, mais il y a aussi tout ce qu'on va nous après découvrir européens pendant la Seconde Guerre mondiale avec le côté médical. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a fort marqué dans le livre. Il y a tout. Tu parles longuement. De ces envois de crânes sur lesquels on fait des études et la façon dont on les obtient.
Ouais.
Parce que les nazis et que l'Allemagne aient ensuite travaillé sur la question des races, ça, c'est connu des Européens dès le collège, mais les détails de comment ils obtiennent ces crânes, c'est profondément révoltant, et tu en parles beaucoup dans la première partie de l'ouvrage.
Voilà, alors on va dédouaner un peu l'Allemagne, pour pas se focaliser sur l'Allemagne, comme si c'était eux qui auraient inventé le racialisme et l'anthropologie raciale, puisqu'on trouve la même chose chez des scientifiques français au 19e siècle, au début 20e et même après. Mais effectivement, c'est un des points qui m'avait intéressé, c'était de voir qu'on ne se contente pas de tuer, de massacrer ces indigènes qui ont osé se révolter contre le bon civilisateur européen. Mais en plus, la science va servir d'alibi et va vouloir prouver à quel point ce sont des êtres inférieurs et qui ne méritent que ça, c'est-à-dire d'être exterminés parce qu'ils sont, inassimilables sur le plan de la civilisation. Et donc, l'un des hauts dignitaires allemands, médecin, qui va commandé ces études de crâne de gens qu'on a décapités et qu'on envoie dans les universités et dans les instituts d'anthropologie. Il s'appelle Eugen Fischer et c'est l'un de ceux que Adolf Hitler lira quand il est en prison et qu'il rédige Mein Kampf. On retrouve des passages entiers où il a piqué finalement toutes les thèses de ce personnage. Et donc les crânes sont décapés, envoyés en Allemagne et ensuite étudiés par des pseudo-scientifiques qui vont déterminer l'infériorité de la race noire. Et donc Lothar von Trotha, dans son second ordre d'extermination, dit une fois qu'on les aura tous tués, il pourra émerger quelque chose de nouveau. Dans le texte complet. Voilà, donc, on a cette vision assez terrible du racialisme de l'époque. Ouais.
Et on demandait, de la même façon qu'on l'a fait dans les camps plus tard, aux prisonniers de préparer en fait, les crânes avant l'expédition.
Voilà, on leur demande, après avoir fait bouillir les crânes de ces malheureux, de les décaper avec des tessons de bouteille et de les décharner pour qu'ils soient bien propres en arrivant, que les médecins allemands puissent les étudier alors qu'ils ont été mis dans des caisses. Voilà. L'Allemagne a, avant la reconnaissance du génocide, de part officielle par l'Allemagne, qui a eu lieu seulement l'an passé. Alors je venais de finir le livre, ça m'a fait un peu drôle, en mai 2021, l'Allemagne, avec quelques temps auparavant, je crois un ou deux ans auparavant, avait restitué des crânes à la Namibie en signe d'apaisement, parce que là-bas, il y a des gens qui se battent pour que la vérité émerge, pour que des choses soient dites, enfin clairement, et reconnues.
Alors dans la deuxième partie, donc la première partie de l'ouvrage, on suit principalement le parcours d'Esther. Oui. Donc c'est après le premier grand massacre, est-ce qu'on peut présenter ça comme ça?
Oui, Esther n'a pas vécu le premier grand massacre, puisque c'est une Nama, et le premier grand massacre découle de la bataille du Waterberg, qui est la première où tous les héros s'étaient réfugiés sur le plateau du Waterberg, ont été encerclés par les 25 000 soldats allemands qui étaient arrivés, commandés par Lothar von Trotha, avec de l'artillerie, avec des mitraillettes Maxim. Alors je voulais pas raconter cette bataille-là, parce que ça m'intéresse pas de raconter les batailles, puis ensuite parce que les historiens la connaissent très bien, mais elle a généré des atrocités, c'est-à-dire que les héros ont fui dans le désert, sont morts de soif, ont été rattrapés par des détachements allemands qui les ont soit brûlés vifs pour pas griller des cartouches, soit ont empoisonné des puits d'eau pour qu'ils crèvent de soif, etc. Donc ils les ont massacrés de manière horrible, tout ça est consigné dans un livre connu. Et donc moi je voulais, à travers le personnage d'Esther, raconter le destin de quelqu'un qui a cette mémoire de ce premier grand massacre, qui va ensuite être une déportée, une prisonnière d'un des plus atroces camps de concentration, un camp de la mort d'ailleurs, qu'on peut appeler comme ça, qui s'appelle le camp de Shark Island, et puis ensuite être ouvrière du rail, puisqu'on va découvrir des diamants, et ça va changer la donne, là on va arrêter de tuer tous ces indigènes, et on va les utiliser comme main d'œuvre, même si on les tue au travail encore. Et elle est ouvrière du rail, ensuite elle parvient à s'évader et va se retrouver, bon, je ne vais pas raconter tout,
non,
elle va se retrouver dans une situation qui m'intéressait d'exploiter et de raconter. Et là on est dans la fiction totale, quoi, puisque ce personnage est imaginaire, il est juste inspiré par la photographie qui est sur le bandeau de la prisonnière Nama, dont le regard m'a assez fasciné. Quoi.
Donc dans la première partie, on se trouve plutôt dans les camps, oui. Et dans la deuxième partie, on bascule plutôt sur une dimension économique qui est
plus
précise.
Oui, il y a la dimension économique, donc avec l'exploitation du diamant, cette ruée vers l'or, on est dans un western, ensuite les éleveurs, ensuite le travail, et la dimension économique, mais je vais essayer de me focaliser un peu, c'était pas simple, sur ce qui se passe dans la tête d'une femme qui est une survivante, donc qui voit que son peuple est écrasé, que les siens sont massacrés, qui a probablement pas d'avenir pour elle, et qui parvient à continuer d'avancer en allant je sais pas trop où. Voilà.
Pour ce qui est du titre, il s'agit d'une citation.
Oui. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est quand on me dit que le titre est beau, c'est un beau titre, là, des torrents de sang et d'argent, parce qu'en fait, je l'ai emprunté, la formule n'est pas de moi, je l'ai emprunté à Lothar von Trotha, le général génocidaire, qui dit « je verserai des torrents de sang et d'argent » en arrivant en 1904, c'est-à-dire qu'il les tuera tous. Pourquoi d'argent ? Parce que c'est un appel à la délation. Il donnera de l'argent à ceux qui vont dire, ceux qui se cachent ici ou là. Et donc ça annonce la couleur du génocide. Voilà.
Comment as-tu l'idée, l'envie de travailler sur ce sujet qui, je pense, est peu connu de la majorité des Français. En tout cas, ça n'est pas partie de l'histoire de la France auquel on a facilement accès. Ouais. Enfin, voilà, je pense, pour l'instant, plus dans un cercle universitaire ou de gens qui s'intéressent beaucoup à l'histoire.
Ouais. Donc, oui. La plupart des travaux sont des travaux d'universitaires qui ont, d'ailleurs, moi j'ai pas essayé de démontrer que c'est un génocide, parce que tout ce que j'ai pu voir dans les travaux d'universitaires, c'est que c'est clairement un génocide et il n'y a pas de polémique là-dessus. Hein, c'est donc bien le premier avant l'Arménie. Comment je suis venu à ce sujet ? Bon, je crois que la question coloniale et la mémoire coloniale, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je m'étais dit, oui, pourquoi pas écrire sur le Congo, sur le Congo belge, sur les massacres de la France à Madagascar, ou des choses comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à raconter, je pense. Je ne sais pas. Peut-être la présence du désert. Je suis assez fasciné par les déserts. C'est un pays où le désert existe, il est présent. C'est peut-être aussi du fait qu'on croise sur les camps de réfugiés à Reims beaucoup de gens qui viennent de ce continent. Donc, je n'ai pas rencontré de ressortissants de Namibie, mais à force de rencontrer des gens qui viennent d'Angola ou qui fuient des pays comme ça, ou ils fuient le Sierra Leone, des régimes oppressifs, j'ai déplacé ce théâtre-là et essayé d'aller un peu en arrière pour raconter une histoire qui n'était bien sûr pas la même, mais avec laquelle on peut établir des similitudes. Voilà.
On en a parlé aussi un petit peu avant l'interview hors micro. Si on revient sur le propos du livre et surtout l'héroïne, malgré elle, de cet ouvrage, Esther, le sujet est extrêmement dur, d'autant plus qu'il est ancré dans une réalité et cette réalité a toujours des répercussions dans le pays actuellement.
Ouais.
Mais... tu me disais qu'Esther n'était pas qu'une victime, surtout. Et c'est vrai qu'on le sent quand on lit le livre.
Voilà. Je ne veux pas que les lecteurs s'apitoient en disant « Oh mon Dieu, les pauvres gens, comme ils ont souffert, comme c'est terrible ce qu'on on leur a fait, et comme les colons étaient des brutes ». Ce discours-là, il est connu, il est facile à démontrer. Par contre, voir dans Esther quelqu'un qui possédait quelque chose qui reste, je dirais, indestructible. Voilà, c'est ce qu'on ne peut pas détruire de l'humain qui existe chez elle. Je ne sais pas trop comment le définir, qui m'intéressait d'imaginer, d'essayer d'approcher. Quoi, parce que c'est aussi une question personnelle que je peux me poser, qu'on peut se poser. C'est-à-dire, quand il arrive le pire, comment on fait, nous, pour mettre un pied devant l'autre encore ? Et pour ne pas être tenté par l'abandon, le suicide ou n'importe quoi.
Voilà, ce qui est aussi un sujet qui a pu être traité par d'autres écrivains. Enfin, Maos, par exemple, c'est une grosse partie du sujet du livre.
Oui, Maos. Voilà, sauf que donc l'auteur raconte la vie de son père. Il y a aussi une mise en abîme de l'écriture, donc la transmission, comment continuer quelque chose qui doit, un fil qui ne doit pas être perdu. Donc dans Maos, on trouve ça. Dans Le choix de Sophie aussi, de Wolanim Slyron, on peut penser à ce livre-là. Et comment Sophie peut-elle vivre avec ça, en ayant, peut-elle continuer à avancer et ne pas sombrer, quoi. Voilà. C'est ça, la question que je me pose, c'est comment on peut faire quand on a traversé ces déserts-là, cette horreur-là, comment on fait pour ne pas sombrer. Ça, je ne connais pas la réponse. Esther peut-être la connaît, mais il faudrait que je la rencontre pour de vrai.
Donc cet ouvrage, on peut le retrouver où ?
Je pense à dans les bonnes librairies, comme on dit, selon la formule consacrée. Donc, je vous conseille d'aller à la Belle Image, par exemple, lors de la dédicace, puisqu'il y a une dédicace vendredi 25 à 18h, c'est-à-dire bientôt. Sinon, vous pouvez le commander sur le site de l'éditeur. Commander directement les
frais. Donc, chez Kiklos.
Chez Kiklos, voilà.
Avec un Y. Donc, rendez-vous à la Belle Image ce vendredi, donc vendredi 25 février à 18h, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Où on pourra te poser toutes les questions qu'on veut?
Non, pas toutes. Pas toutes.
Repartir avec l'ouvrage.
Oui, bien sûr. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
The room.